Aujourd'hui, dans ce Vivre ici, nous partons au musée de l'Odève pour découvrir l'exposition Brésil Identité, une collection exceptionnelle d'art naïf brésilien du XXe siècle, des œuvres aux couleurs vives et lumineuses qui évoquent la nature, la terre du Brésil, les multiples identités du pays, la vie intime et sociale, les rassemblements, la musique, la religion et l'imaginaire. Une cinquantaine d'artistes sont représentés dans cette exposition, dont la moitié sont des femmes. L'exposition Brésil Identité est à découvrir dès maintenant jusqu'en avril 2024. Yvonne Papin, directrice du musée de l'Odève, au micro de Radio Pays des Roues.
Pour moi, ça correspond à la volonté du musée de l'Odève de s'ouvrir encore plus, de montrer un art qui est peu montré, ou peut-être dans certains endroits, mais peut-être moins attendu au musée. Et puis ça participe aussi d'une envie, au-delà de montrer cet art particulier, de contrer un peu la tristesse du moment.
Alors le titre « Brésil, identité », ça reflète la complexité de ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, le titre est choisi volontairement pour ça, et il est au pluriel, parce qu'effectivement, le Brésil est un continent immense qui recouvre des identités multiples qui sont liées à ces histoires qui se sont succédées, croisées, etc. Et donc c'est l'idée de montrer comment ces artistes, avec leur propre identité aussi, mais qui, dans un contexte de socioculturel, ou dans des contextes socioculturels, comment ils donnent une vision de ce monde qui les entoure.
Dans la présentation, vous insistez sur deux choses. Vous insistez sur des artistes peu ou pas connus et surtout des artistes féminines.
Oui, alors c'est aussi un aspect qui m'a intéressé dans cet art, c'est que comme il s'agit d'artistes autodidactes et donc il n'est pas question d'académie, de formation de beaux-arts, etc., du coup ça ouvre la porte à beaucoup plus de liberté, y compris pour les femmes. Puisqu'il n'y a pas ce poncif et ces réglementations qui existent, qui ont existé notamment chez nous, de ne pas donner un accès ou un accès très tardif aux femmes aux écoles des beaux-arts.
Oui, on pourrait éventuellement indiquer que cette peinture primitive et naïve, mais Aragon a dit, il serait naïf de penser que cette peinture est naïve.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que elle, sous son côté, effectivement, oui, ça pourrait ressembler à un dessin d'enfant. Le style c'est stylisé, etc. Sous cet aspect, enfin, caché là-dessous, il y a une vision d'un monde qui les entoure et qui est loin d'être naïf, effectivement, parce que ce sont pour la plupart des artistes qui sont issus de régions pauvres, qui sont subvenus à leurs propres besoins au travers de métiers alimentaires, et qui sont arrivés à la peinture qu'après, et qui, pour la plupart, n'ont pas pu vivre de leur peinture, mais voilà.
Je voulais dire, vous nous expliquez qu'il y a de nombreux artistes qui ont été découverts de façon fortuite par d'autres artistes qui visitaient la région, qui leur ont offert du matériel de peinture. Et je voudrais à ce propos que vous nous parliez aussi de cet artiste Ranchino.
Effectivement, c'est beaucoup de découvertes. Ranchino en fait partie. Il a été découvert par un autre peintre déjà établi. Alors, il faut savoir que ces peintres, justement, comment on les découvre ? C'est parce qu'ils exposent dans les rues. Et donc, ce peintre qui a découvert Ranchino, probablement l'a découvert lors de cette monstration de tableaux dans la rue. Et c'est un artiste qui probablement, enfin, qui a souffert d'un handicap mental et qui a vécu de manière un peu, au bord de la route, dans des cabanes abandonnées, d'où le surnom de Petit Ranch, Ranchino, et qui est complètement autodidacte, et qui, grâce à ce peintre, qui le voit dessiner avec du matériel de récupération, hein, parce qu'il ramasse des cartons, et puis il dessine, etc., lui offre des couleurs, des pinceaux, et c'est comme ça qu'il se met à peindre. Et c'est un très très beau peintre, hein, il a une maîtrise des couleurs innée.
Vous avez également consacré un mur à l'imaginaire. Et à ce propos, vous nous avez parlé d'un peintre, alors je n'ai pas forcément bien retenu, Francesco di Chico da Silva, et qui était plongé dans l'imaginaire et dont on a supposé peut-être que ça correspondait à un monde mental qui lui était propre également, qui figurait sur ses tableaux. Et vous disiez qu'il était né à la frontière, tout près de la frontière péruvienne également.
Son père était péruvien, mais d'une tribu indienne, vraiment à la frontière du Pérou, entre le Brésil et le Pérou. Et Chico da Silva a vécu là jusqu'à ses 10 ans, donc il a été certainement imprégné par cette culture. Et effectivement, il a un univers très personnel, dans lequel il représente des animaux fantastiques, des poissons volants, etc. C'est très coloré, qui s'affrontent. Hein. C'est quand même souvent un peu... moi, ça me fait penser un peu à l'art assyrien, d'animaux qui s'affrontent comme ça, et ce qui le caractérise au-delà des couleurs qu'il utilise, qui sont des couleurs assez vives, orangées, jaunes, etc., c'est que c'est les animaux ou les êtres ont toujours la bouche grande ouverte, comme pour répondre à une agression qui surviendrait. Voilà, c'est un univers très...
Est-ce qu'on sait si, par exemple, chez ces peintres brésilien, il y a eu des muralistes comme leur voisin mexicain.
Oui, absolument. C'est une bonne question.
Dans un art populaire, dans un art absolument. Presque primitif, oui. Presque naïf. Hein, vous pensez qu'il y en a eu?
Oui, Chico da Silva a été découvert comme ça, puisqu'il il peignait sur les grandes cabanes de pêcheurs. Et il y a une autre artiste dont je n'ai pas parlé dans l'exposition, son surnom c'est Dila, qui a été embauchée par la ville où elle est née, justement, pour peindre des fresques sur les murs de toute la ville. Parce qu'elle est devenue connue grâce à sa peinture, et du coup, la ville lui a passé commande pour faire des peintures murales.
Yvan Papin, justement, vous avez choisi pour l'accrochage de cette très belle exposition un accrochage thématique. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes salles ?
Ce qui m'a intéressé dans le fait de faire cette exposition aussi, c'est justement de montrer combien un artiste... peut se nourrir de ses multiples identités, d'un territoire d'où il vient, etc., mais aussi de ce qu'il peut lui redonner en échange, quelque part. Et pour moi, ça rejoint un peu le projet scientifique et culturel du musée, dans le sens où c'est un musée qui parle d'un territoire au travers de collections ou de personnages, comme Paul Dardet, etc., mais qui néanmoins pose des questions qui vont au-delà. Et donc, du coup, ce que j'avais envie de faire, c'était de travailler sur la notion de ce qu'on appelle les territoires, les territoires géographiques, les territoires culturels, le territoire des imaginaires. Et donc, ce sont les trois grands chapeaux pour ce parcours qui ensuite... à des sous-chapeaux qui sont faune et flore, la question de l'eau, la question de la ville, le syncrétisme religieux, etc.
Le mouvement écologiste pourrait s'inspirer de ces peintures qui datent maintenant de pratiquement 80 ou 90 ans.
C'est d'ailleurs une des raisons, je pense, pour lesquelles l'État brésilien s'intéresse de plus en plus à ces artistes, parce qu'ils deviennent les témoins de quelque chose aussi, d'une vie en perpétuel, enfin d'un monde en perpétuelle transformation et devenir.
C'est un naïf donc brésilien, né au Brésil dans les années 1930-1940. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il se perpétue un art plus conventionnel au Brésil ?
Est-ce qu'il se perpétue aujourd'hui ? Oui, absolument. Oui, tout à fait. Il continue à vivre aujourd'hui. Il y a dans l'exposition quelques artistes qui sont jeunes, hein, qui sont encore vivants. Je pense à Eddie Baldo, qui est par exemple né en 1956. Je crois que c'est un des plus jeunes dans l'exposition. Mais oui, tout à fait. C'est un art qui persiste et qui est parallèle à un art plus conventionnel, mais qui est beaucoup influencé par, dans les années 1922, le modernisme était beaucoup influencé par les mouvements de l'époque en Occident, hein, cubisme, etc.
Alors donc, pour égayer notre vie quotidienne, l'exposition est ouverte pendant 6 mois, là, jusqu'au mois d'avril. Donc on ne saurait conseiller tout le monde de venir prendre un bon bol d'air et de fraîcheur et de chlorophylle.
Oui.
Merci en tout cas.
Et il y aura de nombreuses animations qui sont encore en cours de programmation avec au moins 2 soirées musicales, dont une avec un musicien qui commence à être un peu connu quand même, qui s'appelle Lucas Santana, qui habite à Montpellier d'ailleurs, qui est brésilien. Il y aura une soirée conférence avec une anthropologue sur justement cette question du Brésil et de ses identités. Enfin voilà, j'invite vraiment le public à regarder le site internet où on va mettre à jour l'agenda au fur et à mesure.
Oui, le Brésil, l'image que l'on voit, nous, Européens, c'est la samba, c'est le Corcovado, c'est le pain de sucre, c'est Rio, bien sûr, Copacabana, etc. Ce sont aussi les favelas, le football, tout ça est représenté dans le musée.
Oui. Tout à fait. Il y a vraiment toutes les facettes qui sont représentées, à la fois en termes d'occupation des espaces extérieurs, les rassemblements, parce que c'est un peuple qui est quand même très, contrairement à nous, qui se regroupe beaucoup à l'extérieur, tout prétexte est bon, que ce soit une fête plus ou moins religieuse, festive, ou qui a été transformée, etc., que ce soit le loisir, le sport, le travail, parfois. Donc, effectivement, tous ces aspects-là sont représentés dans l'exposition.
Et comment ça vous est venu de choisir d'exposer sur le Brésil ?
J'avais envie de changement. c'est pas le président de la République qui dit ça. Oui, parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs années qu'on était un peu autour du sujet de l'impressionnisme, du post-impressionnisme, des derniers impressionnistes. Et donc, j'avais envie de... Ça part aussi d'une idée que dans le futur, j'aimerais que les expositions soient plus en lien, soit avec le projet, soit directement avec les objets du musée, ou en tous les cas avec ce qu'ils racontent. Et donc il y a un peu de cette idée-là aussi, même si ça paraît pas visible à première vue, parce que des artistes brésiliens à l'ODEV, on se dit « mais qu'est-ce que ça vient faire là ?» Mais c'est ça l'idée. C'est vraiment ce qui m'a intéressé, c'était cette question de territoire et d'identité.